porteuse de pain, deuxième partie, chapitres 41 à 45. Lucie lut, ou plutôt dévora, les deux lettres apportées par Jeanne Fortier. Toutes deux étaient de Lucien Laproux. Dans la dernière, le jeune homme reprochait à sa fiancée son silence, qui le peinait et l'inquiétait en même temps. Lucie fit part de ces deux lettres à son amie Maman Lison. « Il faut que je lui écrive tout de suite, » dit celle-ci, « afin qu'il reçoive de vos nouvelles demain matin. »« Mais si c'est vous qui lui écrivez, » répliqua la jeune fille, « cela redoublera ses inquiétudes. Quoi que vous lui disiez, il se persuadera que la situation est grave. »« C'est vrai, je n'avais pas pensé à cela. » « Comment donc faire ?»« Je vais écrire moi-même. Faible comme vous êtes ?»« J'aurais bien la force de tenir une plume. » »« Mais le docteur l'a défendu. » »« Le docteur n'en saura rien. » »« Si la fatigue s'aggrave, votre état... »« Je me sens beaucoup mieux, et cela ne me fatiguera pas. » »« Il y a là, sur cette table, un buvard, du papier, des plumes. » »« Veuillez mettre tout cela sur mon lit. » »« Et... » Vous aurez la complaisance de me tenir l'encrier. » Jeanne s'empressa d'obéir et Lucie, d'une main un peu tremblante, traça les lignes suivantes. « Cher Lucien bien-aimé, je vais vous dire la vérité tout entière, mais ne vous alarmez pas, car je vous jure que je ne vous cache rien et qu'il ne faut concevoir aucune crainte. Je suis dans mon lit, blessée, mais vous voyez que ma blessure n'est point grave, puisque je peux vous écrire. J'ai été victime d'un odieux attentat. On a voulu m'assassiner pour me voler, et on m'a pris l'objet auquel je tenais le plus au monde, la jolie petite montre dont, à force d'économie, vous m'aviez fait cadeau. Voici ce qui s'est passé. » Ici, la jeune fille racontait son voyage à la Garenne, l'agression d'un inconnu, sa chute et son évanouissement, l'arrivée providentielle de Maman Lison, et enfin la manière affectueuse dont elle avait été accueillie chez le commissaire de Bois-Colombes. Elle terminait en disant « D'ici à 2 ou 3 jours, je pourrai retourner à Paris. Je l'espère bien. Rentrer dans ma chambrette où tout me parle de vous et reprendre mon travail. Je ne suis point du tout abandonnée. La femme du commissaire, une aimable et gracieuse personne, me tient habituellement compagnie, et la bonne Maman Lison vient me voir chaque jour. Enfin, je prends mon mal en patience, et je ne songerai point à me plaindre s'il m'était possible de vous dire de vive voix que je vous aime encore un peu plus qu'hier et que je vous aimerai demain un peu plus qu'aujourd'hui. Votre fiancée, bientôt votre femme, n'est-ce pas ? Lucie. » La jeune fille mit sa lettre sous enveloppe après avoir appuyé ses lèvres sur le papier pour envoyer de loin un baiser à Lucien. Elle écrivit l'adresse et tendit l'enveloppe à Jeanne Fortier qui se hâta de faire disparaître les objets placés sur le lit. Il était temps. Le docteur entrait et il n'aurait pas manqué de gronder bien fort s'il s'était aperçu qu'on venait de lui désobéir. Mais il ne vit rien, constata un mieux sensible et traça la formule d'une potion dont Lucie devait boire une cuillerée d'heure en heure et qui hâterait le retour de ses forces, par conséquent sa convalescence. Jeanne alla chez le pharmacien faire préparer la potion, la rapporta et partit pour Paris. Mademoiselle Amanda était d'une humeur massacrante. Elle avait attendu à l'heure du déjeuner le pseudo Arnold de Rice, et celui-ci ne s'était point gêné pour lui fausser compagnie, sans même se donner la peine de la prévenir de ne pas compter sur lui. Dans la journée, l'essayeuse de Madame Augustine reçut par la poste une lettre de son platonique amoureux. Cette lettre contenait un billet de 1000 francs et annonçait qu'Arnold, étant obligé de faire un voyage imprévu et d'assez longue durée, il avait le regret de partir sans voir sa poulette. Amanda serra le billet de banque avec soin et froissa la lettre avec colère. Ce départ si brusque cachait-il une rupture? Ce voyage était-il véritable? Voilà ce que se demandait l'essayeuse fort désappointée, car elle avait fondé de grandes espérances sur Arnold Rice, espérances qui s'évanouissaient en fumée. Impossible de se répondre. Aucun moyen d'éclaircir ses doutes. Ovide avait eu soin de ne lui fournir aucun indice qui pût l'aider à retrouver sa piste. Elle en était réduite à se lamenter sur l'écroulement de ses beaux châteaux en Espagne. Mieux renseignée que Mademoiselle Amanda, nos lecteurs ont compris qu'il s'agissait d'une rupture définitive. Ovid, du moins, le croyait. Le billet de 1 000 francs était le prix des renseignements donnés au sujet de Lucie. N'ayant plus besoin de l'essayeuse de Madame Augustine, il la mettait carrément de côté et comptait bien ne la revoir jamais. En cela, il se trompait. Lorsque Lucien Labroux jeta les yeux sur la lettre dont nous avons reproduit la plus grande partie, il reçut en plein cœur un coup terrible. Lucie avait failli mourir. Lucie, victime d'un misérable assassin, gisait sur son lit de douleur, et il n'était pas là, près d'elle, pour la soigner. Qui sait si la jeune fille, voulant lui éviter de trop poignantes angoisses, ne lui cachait pas la gravité de sa blessure? Le fils de Jules Labroux éprouvait une véritable torture morale. À quelle résolution s'arrêter? Partir pour Paris? Abandonner la surveillance dont il était chargé? Trahir la confiance de son patron? Le pouvait-il? Assurément, il ne le pouvait pas sans encourir la disgrâce de Paul Armand, sans risquer de perdre son emploi, de compromettre son avenir. Il lui fallait attendre la fin des travaux de Bellegarde et se contenter d'une correspondance quotidienne avec Lucie. C'est ce qu'il résolut de faire, mais en se disant « Ah, si j'étais libre, comme je serais vite auprès d'elle !» De tout ce qui précède, résulte la preuve que personne ne pouvait soupçonner les vrais motifs de la tentative d'assassinat commise sur la jeune fille. Pour tout le monde, il ne s'agissait point d'un crime prémédité, ayant pour but de se débarrasser de Lucie, mais de l'acte brutal d'un rôdeur de barrière, préludant au vol par le meurtre. Ovide Soliveau et le faux Paul Armand, son complice, pouvaient et devaient se croire à l'abri de tout soupçon. En conséquence, ils dormaient en paix sur leurs deux oreilles. L'un et l'autre avaient lu très assidûment les journaux pour savoir si l'on parlait du crime de Bois-Colombes. Les journaux étaient restés muets. Ovide Soliveau se félicitait de ce silence et Jacques Garot, de son côté, s'en applaudissait. Le parquet ne s'était point ému d'une tentative de meurtre n'ayant pas amené la mort, car de tels actes sont malheureusement trop fréquents dans la grande banlieue de Paris. À la suite du procès-verbal du commissaire, aucun juge d'instruction ne s'était rendu sur le théâtre du crime. Le parquet avait simplement ordonné de prendre des mesures de police pour assurer la sécurité des habitants de Bois-Colombes et de chercher le numéro d'ordre de la montre volée. Lucie, ayant donné l'adresse du magasin d'horlogerie où son fiancé avait acheté cette montre, la recherche ne fut ni longue ni difficile. On prit note du numéro et on attendit que l'assassin, en cherchant à vendre le bijou volé, vînt se livrer lui-même à la justice. À l'hôtel de la rue Murillo, les choses suivaient leur cours naturel. Paul Armand s'abstenait provisoirement de parler à sa fille de Lucien Labroux. Le jeune homme, dans ses lettres à son patron, évitait d'écrire le nom de Mary. Lorsque Lucien sera de retour, se disait Jacques Garot, lorsqu'il aura connaissance de la disparition de celle qu'il aimait ou qu'il croyait aimer, je jugerai de l'effet produit sur lui par cette nouvelle et alors j'agirai. L'état de Mary restait le même. Renfermant ses souffrances en elle-même, s'efforçant de cacher ses poignantes douleurs, elle ne laissait pas échapper une plainte, elle ne prononçait pas une parole de reproche. Pourtant son père lisait dans son âme, comprenait ce qu'elle ne disait point, et se demandait s'il ne ferait pas bien de hâter le retour de Lucien. Mais hâter ce retour sans motif appréciable ne serait-ce pas éveiller des soupçons? Et il temporisait par prudence. 10 jours se passèrent. Lucie avait quitté Bois-Colombes après avoir remercié le commissaire de police et sa femme de leur bonté et le médecin des soins intelligents qui avaient rendu si prompte sa guérison presque complète. Puis elle était revenue au Quai Bourbon à la grande joie de Jeanne Fortier et de Madame Augustine. La jeune fille s'était remise immédiatement au travail, mais il lui était interdit de se fatiguer, car si bien rétablie qu'elle fût en apparence, sa blessure la faisait de temps en temps souffrir. Lucie avait terminé l'assemblage des costumes de Mademoiselle Armand. Mary, dont nous connaissons l'état moral et la faiblesse physique, s'absorbait dans son chagrin, sortait à peine de chez elle et ne s'occupait point des travaux commandés à Madame Augustine. Celle-ci, sachant que la fille du millionnaire était souffrante et que par conséquent rien ne pressait, avait attendu sans impatience la complète guérison de Lucie. Mademoiselle Armand ignorait l'accident arrivé à la jeune ouvrière. Et si le hasard le lui avait appris, ne se serait point douté quelle était la cause inconsciente de cet accident. Quelques jours après sa réinstallation dans son petit logement du quai Bourbon, Lucie, se trouvant en mesure, avait envoyé maman Lison demander ce qu'elle devait faire pour l'essayage. Madame Augustine fit répondre qu'il lui serait agréable que Lucie, si elle pouvait sortir, se rendit elle-même à l'hôtel de la rue Murillo. La fiancée de Lucien Labroux aurait voulu éviter cette corvée. La sécheresse de Mademoiselle Armand lors de sa visite au quai Bourbon, la veille du départ de Lucien, l'avait blessée. Enfin, un vague et un indéfinissable pressentiment lui disait « N'y va pas !» Mais Madame Augustine la faisait prier de s'y rendre, et cette prière constituait un ordre poli. En conséquence, le lendemain, vers midi, accompagnée de Jeanne Fortier qui portait les cartons et devait ne la quitter qu'à la porte de l'hôtel, elle fit sa première sortie. Un soleil déjà chaud brillait dans un ciel sans nuages. Les arbres des quais, des squares, des avenues étaient presque complètement couverts de feuilles. La nature printanière prenait sa revanche du long sommeil d'un hiver rigoureux. Lucie se sentait très faible encore. « Si nous faisions la route en voiture, mignonne ?» lui demanda la porteuse de pain. « J'aimerais mieux aller à pied, » répondit-elle. « Il me semble que cela me fera du bien et me rendra des forces. Il fait si beau. Pourrez-vous marcher si longtemps ?»«
Je l'espère. »
Alors, appuyez-vous sur moi.
Oh, quant à cela, de grand cœur.
Lucie s'appuya sur le bras que Jeanne lui tendait, et toutes deux se mirent lentement en chemin. Mais la jeune fille n'avait point fait la part d'une convalescence à peine achevée. Au bout d'un quart d'heure, ses jambes fléchissaient sous elle.
Je l'avais bien prévu, murmura maman Lison.
Elle arrêta un fiacre qui passait à vide, y fit monter Lucie, y monta après elle, et donna au cocher l'adresse de la rue Murillo. Le fiacre roula, cahin cahin, vers la demeure du millionnaire. Paul Armand et sa fille achevaient de déjeuner. Le valet de chambre entra dans la salle à manger et dit « Il y a là quelqu'un pour mademoiselle. »«
Quelqu'un pour moi ?» répéta Mary.
« Qui donc ?»«
La couturière de mademoiselle. Elle vient essayer des costumes à mademoiselle. »«
Madame Augustine ?»«
Non, mademoiselle. C'est une jeune ouvrière. Je l'ai déjà vue plusieurs fois à l'hôtel. »
Mary devint très pâle.
« Lucie ? » fit-elle d'une voix agitée.
« Oui, mademoiselle, c'est bien ce nom-là. »«
Lucie ? »
s'écria à son tour Paul Armand en se levant, livide de terreur. Mary ne comprit pas, ne pouvait pas comprendre l'expression d'épouvante peinte sur le visage de son père. Elle pensa « La présence de cette fille le choque et l'irrite. » Puis tout haut « Je ne la recevrai pas, mon père, » dit-elle. « Je ne veux pas la recevoir. » Ces paroles ramenèrent un calme relatif dans l'esprit du millionnaire. Il sentit qu'il avait risqué de se trahir en cessant d'être maître de lui-même.
Lucie vivante, était-ce possible?
Ovide avait-il menti avec impudence en prétendant l'avoir supprimée? Dans tous les cas, il fallait s'assurer de l'identité de la jeune fille, et pour cela il fallait la voir. Jacques Garot se pencha vers sa fille et lui dit à voix très basse, de manière à n'être entendu que d'elle.
Je n'ai pas su dominer un premier mouvement d'irritation, et je le regrette, car cette irritation est injuste.
Injuste ? Répéta Mary.
Oui, certes. Cette jeune fille ignore qu'elle est cause de ta souffrance. Elle n'a aucun tort volontaire envers toi. Il serait peu digne de refuser de la recevoir. C'est une ouvrière qui se présente ici, envoyée par sa patronne. Pourquoi, sous quel prétexte lui fermerait-on la porte ?
Accueille-la donc aujourd'hui, comme de coutume, et contente-toi de prier Madame Augustine de t'envoyer à l'avenir une autre personne.
« Sa vue m'est odieuse !» dit Mary.
« Fais un appel à ta dignité, et tu triompheras sans peine de cette répulsion. »«
Vous avez raison, mon père. »
Paul Armand se tourna vers le valet de chambre, qui attendait immobile le résultat du colloque à voix basse engagé entre le père et la fille. « Faites entrer cette ouvrière, » lui dit-il.
« Ici ?» s'écria Mary.
« Pourquoi non ? Inutile de te déranger. S'il ne te plaît pas d'essayer les vêtements qu'elle apporte, tu trouveras un prétexte. » Et le millionnaire répéta « Faites entrer !» Le valet de chambre quitta la salle à manger et y revint au bout de quelques secondes, amenant Lucie. L'ouvrière était d'une pâleur mortelle, visiblement émue, et semblait ne se tenir debout qu'avec peine. Mary s'aperçut du grand changement survenu en elle depuis leur dernière entrevue, mais elle ne se sentit point touchée de ce changement.
« Que me voulez-vous » demanda-t-elle avec hauteur. Lucie répondit d'une voix faible. « Je venais, mademoiselle, vous essayer vos costumes. Je suis très en retard, je le sais, mais ce n'est pas ma faute. J'ai été victime d'un accident, ou plutôt d'un crime, qui m'a pendant plusieurs jours empêchée de travailler. » En entendant ces mots, Paul Armand tressaillit. « Un crime ?» s'écria Mary, dont la curiosité s'était éveillée. « Oui, mademoiselle. Quel crime ? On a tenté de m'assassiner. On y a même à moitié réussi. «
Vous avez été blessée, mademoiselle ? » fit Paul Armand avec le plus grand sang-froid.
« Oui, monsieur, et je souffre encore de ma blessure. J'ai reçu un premier coup de couteau, et un second allait m'achever si la lame de l'arme ne s'était brisée sur le busque de mon corset. C'est à ce hasard que j'ai dû la vie.
Hasard bienheureux et qu'il faut bénir. Votre assassin a été arrêté.
Non, monsieur, mais il y a tout lieu d'espérer qu'il le sera bientôt. »
Cette réponse fit perler des gouttes de sueur froide sur les tempes du millionnaire. Cependant, il eut la force de maîtriser son trouble et reprit. « Vous avez pu sans doute donner son signalement aux gens de la police. »«
Non, monsieur, c'est à peine si je l'ai entrevu dans la nuit. C'est, paraît-il, un de ces rôdeurs qui infestent en ce moment les environs de Paris. L'assassinat chez lui n'était pas un but, mais un moyen. Il tuait pour voler.
« Ah, on vous a volé ?»«
Oui, monsieur. Ma montre, ma chaîne et mon porte-monnaie. »
Depuis que Lucie était entrée, le faux Paul Armand la contemplait avec une curiosité grandissante. Il analysait les lignes de son visage, l'expression de ses yeux. Il étudiait le son de sa voix. « C'est singulier, se disait-il. Il me semble que j'ai déjà vu ce visage, que j'ai déjà entendu cette voix. Cependant, je me trouve aujourd'hui, pour la première fois, en présence de cette jeune fille, j'en suis sûr. » Tout à coup, une lueur se fit dans sa mémoire.
« J'y suis, poursuivit-il. C'est le portrait vivant de Jeanne Fortier, lorsque Jeanne Fortier était jeune elle-même. »
Jacques Garot ne se trompait pas. Quiconque avait vu Jeanne 20 années auparavant et voyait Lucie devait constater entre les deux femmes une prodigieuse ressemblance, facilement explicable du reste pour des raisons que connaissent nos lecteurs. En même temps que Jacques Garot constatait la ressemblance dont nous venons de parler, il se rappelait qu'à l'époque de l'incendie d'Alfortville, la fille de Jeanne était en nourrice à Joigny. Il se souvenait que les premières années de Lucie s'étaient passées aux enfants trouvés, Mary le lui avait dit. Une idée subite traversa son cerveau.
« Si c'était elle ? » se demanda-t-il.
Lucie, brisée de fatigue, semblait chercher un appui autour d'elle. Paul Armand s'aperçut de la faiblesse de la jeune fille et lui avança vivement un siège. « Vous êtes fatiguée, mademoiselle, lui dit-il. Asseyez-vous. » Mary se trouva blessée de la condescendance de son père. « Je n'essaierai point mes costumes, fit-elle d'une voix sèche. Mademoiselle Lucie peut donc se retirer. Elle m'habille d'ailleurs depuis assez longtemps pour terminer mes vêtements sans qu'il soit utile de les retoucher. J'irai prendre livraison de ces costumes chez Madame Augustine dans une dizaine de jours. Je ne suis nullement pressée. » C'était indiqué d'une façon très nette que la jeune ouvrière ne devait plus remettre les pieds à l'hôtel. Lucie le comprit. Le cœur gonflé par l'humiliation, elle salua et sortit de la salle à manger, emportant ses cartons et cherchant vainement ce qu'elle avait pu faire pour que Mademoiselle Mary, si douce d'abord et si bienveillante pour elle, la traitât de cette façon dure et dédaigneuse. Elle retrouva Maman Lison à qui elle confia son chagrin. « Il ne faut pas faire attention à cela, ma mignonne, » lui dit la pauvre femme qui souffrait de toutes les souffrances de Lucie. « Mademoiselle Armand est, à ce qu'il paraît, très malade, et la maladie rend acariâtre les meilleurs caractères. » On reprit tristement le chemin du quai Bourbon. Paul Armand, resté seul avec Mary, renoua l'entretien par ces mots. « Sais-tu que cette jeune fille est vraiment jolie ?» Mary sentit de grosses larmes sous ses paupières.
« Tu trouves ? » murmura-t-elle douloureusement. « Et tu comprends, n'est-ce pas, que Lucien puisse l'aimer ? »
« Je comprends très bien qu'il est pour elle un caprice. Mais ces amours-là, je te le répète, n'ont qu'une courte durée. Comme un feu de paille, ils flambent, s'éteignent et il n'en reste rien, pas même un souvenir. J'ai reçu une nouvelle lettre de Lucien, ajouta le millionnaire.
Il revient ? Demanda vivement Mary.
Dans quelques jours, oui.
Il te parle de moi ? Il m'en parle dans toutes ses lettres, et tu dois comprendre qu'il ne s'occuperait pas ainsi de toi si tu lui étais indifférente.
Tu crois qu'il m'aimera ?
Je crois que sans le savoir, il t'aime déjà.
Tu me l'affirmes, mais c'est à lui que je voudrais l'entendre dire.
Il te le dira, cher enfant.
Mary baissa la tête. Un long soupir s'échappa de sa poitrine oppressée. Elle ne paraissait point convaincue. Le millionnaire prit son siège et poursuivit.
Ne m'as-tu pas raconté que cette Lucie n'avait ni père ni mère ?
Oui. Comment le savais-tu ?
Je le tenais d'elle-même. M'intéressant à elle, je lui avais demandé son histoire.
Elle a été élevée à l'hospice des enfants trouvés ?
Oui.
À Paris ?
Certainement.
Elle a été inscrite sous le numéro 9.
Mais père, je t'ai déjà dit tout cela.
C'est possible. Je ne m'en souvenais pas.
Elle n'a jamais su par qui elle avait été abandonnée.
Jamais.
Elle aurait pu chercher à le savoir.
Oui, mais sans y réussir. On enlève de parti pris aux enfants abandonnés tout moyen d'investigation.
Pourquoi t'inquiètes-tu de ces choses ?
Pour bien me convaincre que Lucien Labroux, appartenant à une famille honorable, ne peut aimer sérieusement une fille sortant de l'hospice et qui n'a même pas de nom.
Paul Armand se leva.
« Au revoir, mignonne, » fit-il. « Je vais à l'usine où ma présence est nécessaire. »«
Reviendras-tu dîner ?»«
Oui, à moins de circonstances imprévues. Si je n'étais point ici à l'heure habituelle, il ne faudrait pas m'attendre. C'est que quelque affaire me retiendrait. »
Il embrassa Mary tendrement et sortit.
Si Paul Armand avait interrogé sa fille au sujet des premières années de Lucie, c'est que la pensée dont nous avons signalé l'éclosion dans son cerveau lorsque la ressemblance de l'ouvrière avec Jeanne Fortier l'avait frappé, se développait de plus en plus. Maintenant, il possédait des renseignements certains. Il ne lui restait qu'à voir sans retard Ovid Soliveau pour lui apprendre qu'il avait manqué son coup et que sa victime, qu'il croyait morte, se portait bien. Le millionnaire, au lieu de se servir de sa voiture, prit un coupé de régie et se fit conduire avenue de Clichy. Vainement, il carillonna à la petite porte du jardinet. Personne ne répondit. Soliveau était absent. Paul Armand frappa du pied avec colère. Ce premier moment de mauvaise humeur passé, il tira de sa poche un carnet et, sur l'une des feuilles, écrivit ces lignes. « Si tu rentres avant 5 heures du soir, viens vite à Courbevoie. Si tu rentres après 6 heures, je t'attendrai ce soir, à 10 heures, au Café de la Paix, place de l'Opéra. Urgent !» Il déchira la feuille et l'introduisit dans la boîte aux lettres attenant à la porte d'Ovide. Aussitôt après, il se fit conduire à l'usine. Depuis qu'il avait interrompu ses relations avec Mademoiselle Amanda, le Dijonnais, à qui l'inoccupation semblait insupportable, s'était mis à fréquenter les tripots. La rage du jeu le reprenait. Ne pouvant, faute de répondant, faire partie d'un cercle convenable, il hantait les établissements clandestins, vulgairement nommés « claque-dents », et qui sont ouverts aux premiers venus sans la moindre formalité de présentation. Nous devons ajouter cependant qu'il jouait en joueur étrier et ne risquait que des sommes minimes. Ce jour-là, après son déjeuner, il était allé faire une partie. Les enjeux étaient plus que modestes, ce qui ne l'empêcha pas, grâce à une déveine persistante, de perdre une centaine de francs. Il n'avait plus d'argent sur lui. Afin de résister à la tentation, il ne se munissait jamais, en allant à son tripot, que de la somme qu'il considérait à l'avance comme à peu près sacrifiée. Entièrement décavé, il retourna chez lui vers 4 heures, et selon son habitude, en rentrant, il visita la boîte aux lettres. Il y trouva le billet de son pseudo-cousin. Ce billet le rendit perplexe. Que se passait-il donc d'imprévu ? Quel motif rendait si pressant le rendez-vous donné par son complice ? Très intrigué, un peu inquiet, Ovid garnit son porte-monnaie vide et se fit conduire à l'usine de Courbevoie. Les ordres étaient donnés. Il fut à l'instant même introduit dans le cabinet du constructeur. Paul Armand avait le visage lugubre. « Quelle physionomie sinistre !» lui dit le Dijonnais. « Est-ce que tu viens d'apprendre la mort de ton meilleur ami ?»«
Il ne s'agit pas de mort, » répondit le millionnaire d'une voix sourde.
« De quoi donc alors ?»«
Nous voici, par ton fait, dans le plus effroyable embarras. »«
Je n'ai jamais deviné les énigmes. J'attends le mot de celle-ci. »«
Lucie est vivante. »
« Lucie est vivante !»
répéta Soliveau en pâlissant.
« Oui, c'est impossible. J'ai le poignet vigoureux et mon couteau est allé jusqu'au cœur. On t'a trompé. »«
J'ai vu. Tu as vu Lucie vivante ?»«
Je l'ai vue. Je lui ai parlé. »«
Où cela ?»«
Chez moi, rue Murillo. »
Ton couteau a dévié sur les baleines du corset et n'a fait qu'une entaille, qui s'est guérie en quelques jours. Lucie, sauvée, a repris son travail. Plus que jamais, elle entrave mes projets.
« Tonnerre !» fit Ovide en serrant les poings. « C'est joué de malheur. Elle m'a vu, sans doute. Elle peut me reconnaître.
Rassure-toi, les ténèbres étaient épaisses et l'épouvante la paralysait. Elle n'a pu donner à la justice aucun renseignement relatif à l'homme qui l'a frappée. Le crime est mis sur le compte des rôdeurs qui pullulent aux environs de Paris.
Dans ce cas, on sera quitte pour recommencer et s'y prendre mieux.
Il faut bien s'en garder, répliqua Jacques Garot. Une seconde tentative du même genre ferait à coup sûr naître des soupçons, ce qu'avant tout il faut éviter.
Alors, tu abandonnes la partie? Demanda Soliveau.
Abandonner la partie lorsque la vie de ma fille est l'enjeu?
Jamais.
Tu as un plan?
Oui.
Quel est-il? Paul Armand tendit un papier à son complice qui le prit curieusement et lut les lignes suivantes.
Lucie a été déposée en 1861 ou 1862 à l'hospice des enfants trouvés de Paris, où elle a été inscrite sous le numéro matricule 9.
« Eh bien, fit-il ensuite, tu ne comprends pas. »«
Pas encore, je l'avoue. »«
Il faut savoir par qui a été déposé cet enfant. »
« Je comprends de moins en moins, et je crois que tu perds la jugeote.
Qu'est-ce que ça peut te faire, et à quoi ça peut-il nous servir de savoir qui a déposé cette Bob Charde aux enfants trouvés ?»«
D'abord, on refusera de nous la prendre, si nous ne désignons pas les objets qui ont dû accompagner le dépôt et sont signalés au procès-verbal. »«
Il faut connaître ce procès-verbal. »«
Le moyen, je te prie, à moins d'aller voler le registre de l'hospice. »
À tout prix, il faut que je sache si je ne me trompe pas.
Que crois-tu donc?
Que Lucie est la fille de Jeanne Fortier, condamnée à perpétuité.
Qui te fait supposer cela?
Son nom d'abord. L'enfant de Jeanne Fortier se nommait Lucie.
Il y a plus d'un âne à la foire qui s'appelle Martin.
Son âge.
Pour la même raison, rien à conclure.
Enfin, son visage. Elle ressemble à Jeanne quand Jeanne était jeune. Comme se ressemblent deux épreuves d'une même photographie.
Ah ah, ceci serait plus significatif. Si tu ne t'illusionnes pas,
mes souvenirs sont exacts.
Une telle ressemblance donnerait presque une certitude, ou tout au moins des probabilités assez fortes.
Paul Armand poursuivit. C'est en 1861 que Jeanne Fortier a été condamnée. C'est en 1861 ou 1862 que Lucie a été déposée à l'hospice.
Il y a connexion.
La nourrice, n'étant plus payée, a certainement apporté l'enfant à Paris, après avoir fait une déclaration dans son pays et s'en être débarrassée au profit de l'assistance publique.
Tout ceci me paraît d'une logique inattaquable, répondit Ovide, mais ne m'explique pas encore en quoi cela peut te servir.
Comprends donc que si Lucie est bien la fille de Jeanne Fortier, et si c'est prouvé, elle devient l'enfant d'une voleuse, d'une incendiaire, de l'assassin de Jules Labroux. Et que Lucien, fils de la victime, la repoussera certainement avec horreur.
Parfait, bravo, j'ai compris, pas un mot de plus.
C'est très fort.
Alors, il faut agir.
Sans doute, mais de quelle manière? Je te répète qu'à l'hospice des enfants trouvés, nous n'aurons aucun renseignement.
Ce n'est pas une supposition, c'est une certitude.
Il faut donc chercher ailleurs.
Oui, mais où?
Sais-tu comment s'appelait la nourrice chez qui Jeanne Fortier avait déposé sa fille?
Non.
Connais-tu du moins le nom du pays?
Oui, c'est Joigny.
Eh bien, mon ami, c'est à Joigny qu'il s'agit d'aller. Je m'en charge, pour t'obliger, comme toujours.
Quand partiras-tu?
Demain matin. As-tu besoin d'argent?
Question naïve. Amanda m'a coûté les yeux de la tête, et je suis à peu près à sec.
En répondant ainsi, Ovide mentait avec impudence, mais c'était le moyen de grossir sa pelote.
« Il est d'ailleurs plus que probable, ajouta-t-il, qu'on exploitera la situation et qu'on me fera payer bien cher les déclarations que je vais chercher.
Mais qu'est-ce que ça te fait? Tu es si riche.
et il s'agit du bonheur de ta fille. »
Le faux Paul Armand ouvrit le tiroir caisse de son bureau et en tira une liasse de billets de banque qu'il tendit à Soliveau.
« Grand merci !» dit ce dernier en prenant les billets et en les mettant dans sa poche sans même les compter. « Demain matin, dès la première heure, je roulerai vers Joigny. »
Et les complices se séparèrent. La journée avait été splendide, nous l'avons dit. Une de ces radieuses journées de printemps où les rayons déjà chauds du soleil fécondent la nature rajeunie. Après le départ de son père, Mary donna l'ordre d'atteler. Elle avait besoin d'air, de mouvement, d'une distraction quelconque, et elle se proposait de faire une visite à l'atelier de notre vieille connaissance, le peintre Étienne Castel. Cette visite avait d'ailleurs un but que nous connaîtrons bientôt. Étienne, nous le savons, demeurait rue d'Assas, et Mary était allée déjà deux ou trois fois chez lui. Quand la jeune fille se présenta, le peintre se trouvait dans son atelier, mettant la dernière main au tableau, commencé 21 années auparavant, et offert par lui à Georges Darrier, dont il avait été le tuteur et dont il restait le meilleur ami. À côté de lui, sur une petite table, était le cheval de carton, qui constituait un des accessoires du tableau. Étienne Castel reçut Mademoiselle Armand avec un véritable plaisir, mais en même temps avec une compassion profonde, tant la pauvre jeune fille lui parut changée et souffrante. « Vous venez sans doute, mademoiselle, m'adresser des reproches, » lui dit-il. « Et pourquoi cela, mon Dieu ?» demanda Mary en souriant. « Parce que je n'ai pas fait d'acquisition nouvelle pour votre galerie. » « Rassurez-vous, le but de ma visite n'est point du tout celui-là. Je viens vous demander un service. » « Tant mieux. Est-ce de l'ami ou de l'artiste que vous avez besoin ?»«
C'est de l'artiste.
Vous le trouverez à votre disposition comme l'ami. De quoi s'agit-il ? » ?»«
J'ai l'habitude chaque année d'offrir à mon père un cadeau, le jour anniversaire de sa naissance. Et ce jour arrivera dans 2 mois.
Devinez-vous ?
Je crois que oui.
Vous désirez cette année donner votre portrait à Monsieur Armand. Est-ce cela ?
Parfaitement cela. Et j'ai compté que vous voudriez bien devenir le collaborateur de cette surprise.
Certes, et de grand cœur. J'ai beaucoup de travaux commencés, mais je les interromprai tous pour vous être agréable.
Vous êtes le plus aimable des hommes.
Je ne mérite pas ce compliment. Néanmoins, venant de vous, je l'accepte quand même. Est-ce un portrait en pied que vous désirez ?
En pied, oui, si vous le voulez bien.
De quelle dimension ?
Je m'en rapporte à vous pour cela.
Cette grandeur vous conviendrait-elle ? Demanda Étienne en s'approchant du tableau qui représentait l'arrestation au presbytère et en désignant la figure principale, celle de Jeanne, au tiers de nature.
Mary avait suivi l'artiste.
« Oui, c'est cela, » répliqua-t-elle. Et, pendant quelques secondes, elle demeura attentive et comme en extase devant la toile. Tout à coup, elle tressaillit.
« Lorsque je suis venue ici, » demanda-t-elle, « ce tableau était-il en vue ?»«
Je ne crois pas, mademoiselle. Pourquoi ?»«
Parce que je ne l'avais pas remarqué, quoiqu'il soit assurément très remarquable. »
S'il avait attiré mon attention, j'aurais été frappée par une chose qui me frappe aujourd'hui vivement.
Quelle chose ? Le visage de cette femme au milieu des gendarmes.
Ce visage ressemble-t-il à celui de quelqu'un que vous connaissez ?
Oui, et la ressemblance est frappante.
S'agit-il d'une personne âgée déjà ? Demanda vivement Étienne.
D'une personne toute jeune au contraire.
21 ou 22 ans au plus.
C'est une ouvrière de Madame Augustine, ma tailleuse.
Et vous la nommez ?
Lucie.
Est-ce que par hasard vous la connaissez ?
Non, mademoiselle, je ne le crois pas, du moins.
Où demeure cette Lucie ?
Quai Bourbon, numéro 9.
Décidément, je ne la connais pas. Étienne pensait. La jeune fille qu'aime Lucien Labrousse se nomme également Lucie et demeure au Quai Bourbon. Il ajouta tout haut, « Le monde est plein de ressemblances fortuites. »
« Ainsi, c'est bien de cette grandeur que je ferai votre portrait ?
S'il vous plaît.
Debout ?
Oui.
Combien vous faudra-t-il de séances ?
Au moins 5 ou 6.
Vous me donnerez vos heures.
Vos heures seront les miennes. En ce moment, je sortirai peu, et je me tiendrai toujours à votre disposition. »
« Quand commencerons-nous ? » demanda Mary.
Après-demain, si vous voulez.
C'est convenu. Je viendrai vers 2 heures de l'après-midi.
Aujourd'hui, je me sauve.
Pourquoi donc?
Parce que je vous empêche de travailler.
N'en croyez rien. Quand vous êtes entré, j'allais justement prendre un peu de repos. Et je n'espérais pas une distraction si charmante.
Accordez-moi quelques minutes de causerie.
Bien volontiers. De quoi parlerons-nous?
De vous.
Vous plaisez-vous à Paris?
Je ne m'y déplais pas, mais je me faisais de la grande ville une idée plus gaie, plus vivante.
Alors, vous regrettez l'Amérique?
Sans la regretter, il y a des instants où je voudrais revoir son beau ciel, sa luxuriante nature.
Vous êtes née à New York, mademoiselle?
Oui, monsieur. Et en naissant, j'ai perdu ma mère, qui était belle et bonne comme un ange, m'a dit souvent mon père.
Mais monsieur, votre père n'est pas américain, lui, poursuivit Étienne, faisant subir un véritable interrogatoire à la jeune fille, sans qu'elle s'en doutât.
Pas le moins du monde. Il est français, originaire de la Bourgogne. Mon grand-père maternel, James Mortimer, ayant reconnu en lui une intelligence hors ligne, l'avait associé à ses entreprises et lui avait donné sa fille en mariage.
Votre grand-père était un inventeur célèbre.
Oui, monsieur. On lui doit, ainsi qu'à mon père, de grandes et utiles découvertes.
Votre père n'a-t-il pas inventé une machine à coudre?
La silencieuse, oui, monsieur. Et une machine à guillocher.
Étienne tressaillit. Une machine à guillocher? Répéta-t-il. Un chef-d'œuvre, à ce qu'il paraît. Elle a rapporté des millions.
Monsieur Armand a habité longtemps l'Amérique?
Près de 22 ans.
En quelle année est-il arrivé à New York?
En 1861, je crois.
Pour faire une immense fortune comme la sienne, il faut qu'il ait travaillé beaucoup.
Mon grand-père était déjà très riche.
Les inventeurs d'un vrai mérite s'enrichissent vite en Amérique. Peut-être y retournerez-vous un jour?
Je ne crois pas.
Pourquoi?
Mary se sentit rougir. Cependant, elle répondit.
Mon père ne se déciderait plus à quitter son pays natal, et tous ses intérêts sont maintenant en France.
C'est vrai, mais il peut se présenter telles circonstances.
Lesquelles?
Mais, par exemple, un mariage pour vous, mademoiselle.
Oh, fit Mary vivement, je n'épouserai jamais un Américain.
Vous aimez les Français?
Beaucoup. D'ailleurs, par mon père, je suis française.
Dernièrement, mademoiselle, lorsque j'ai eu le plaisir de vous voir chez mon ami Georges Darier, vous avez exprimé une idée qui vous fait le plus grand honneur.
Une idée? Répéta la jeune fille.
À quel sujet?
Au sujet de Lucien Labroux.
Mary se sentit rougir de nouveau et balbutia timidement.
N'était-ce pas bien naturel?
Le devoir étroit de ceux qui possèdent, et selon moi de tendre la main à ceux qui ne possèdent point.
Monsieur Armand, après réflexion, a-t-il été de votre avis?
Je crois que mon père a proposé une association à Monsieur Labroux.
Donc il a suivi vos conseils, et je l'en félicite. Car Lucien Labroux est un homme éminemment distingué et un travailleur. Aussi, je compte bien qu'il se décidera un jour ou l'autre à accepter les propositions de mon père.
Les aurait-il donc refusées? Demanda l'artiste surpris.
Non, mais il temporise.
Pourquoi? Ces propositions sont brillantes.
Peut-être sa grande modestie les lui fait-elle trouver trop brillantes.
C'est à vous, mademoiselle, d'insister auprès de lui. À un avocat tel que vous, comment refuserait-il quelque chose?
Mary ne répondit pas à cette dernière phrase et étouffa un soupir. Étienne Castel comprit alors ce qui se passait dans le cœur de la pauvre enfant.
Vous me quittez déjà?
Fit-il en voyant la visiteuse se lever.
Je rentre à la maison. Si vous voyez mon père, ne dites pas un mot, je vous en prie, qui puisse lui faire soupçonner la surprise que je lui prépare.
Je serai muet, soyez-en certaine.
Eh bien, à après-demain. Et mille fois merci.
Le peintre reconduisit mademoiselle Armand et revint s'asseoir devant le tableau qu'il retouchait.
Cette ressemblance de Lucie et de Jeanne Fortier est étrange, murmura-t-il.
Et Lucie est une enfant élevée à l'hospice.
Et elle a 22 ans.
Puis Étienne Castel s'abandonna à une rêverie profonde et repassa dans son esprit tout ce que venait de lui dire la fille du millionnaire.
Ovide Solivo, lorsqu'il avait décidé de faire une chose,
n'en retardait jamais l'exécution. Nous l'avons entendu dire à Paul Armand, « Je partirai demain pour Joigny. » Le lendemain, en effet, il prenait le train de 6h30 à la gare de Lyon. À 9h47, il arrivait au but de son voyage. Les recherches qu'il devait faire, recherches importantes, nos lecteurs le savent, n'étaient point du tout faciles à mener à bon port, mais le Dijonnais ne doutait de rien, tant il se croyait sûr de lui-même et de son talent d'investigation. Le fait est qu'il débrouillait généralement, avec une facilité surprenante, les écheveaux les plus compliqués. Si les circonstances l'avaient conduit à mettre son intelligence et ses instincts au service de la préfecture, il fut devenu certainement un policier remarquable. « Ce ne sera pas commode, se disait-il chemin faisant. Peu importe, j'arriverai tout de même. Je vais chercher une aiguille dans une botte de foin, mais en prenant le foin brin à brin, on finit par trouver l'aiguille. Seulement, avant de se mettre à la besogne, il faut prendre des forces. Je meurs de faim, je vais déjeuner. » En quittant la gare, une petite valise à la main, Ovid trouva près de la sortie les omnibus des différents hôtels. Il monta dans celui de l'hôtel de la Cigogne, qui le conduisit au centre de Joigny. Jolie ville, étagée sur une colline, au bas de laquelle Lyon roule incessamment ses Olympies. Le voyageur retint une chambre, et après s'être lavé le visage et les mains, se fit servir un plantureux repas. Tout en mangeant ferme et en buvant sec, le Dijonnais construisait son plan de campagne. « Retrouver la nourrice si elle existe encore, » se disait-il. « Voilà le premier problème. Si chercher l'inconnu et le chercher sans un point de repère, sans un jalon, sans un indice. Pas de nom. Voilà le hic. C'est égal. Dans une petite ville, tout se sait. Quoique 21 ans se soient écoulés, il doit bien rester quelques traces de la fille de Jeanne Fortier. » Ovid, étant bourguignon, savait qu'en Bourgogne, il y avait des femmes faisant le métier de ce que la bourgeoisie de Paris appelle les nourrices sèches et élevant soit au lait de chèvre, soit au biberon, jusqu'à 8 à 10 enfants à la fois. Il se fit donner l'adresse d'une de ces femmes qui demeurait tout au bout de la ville et de son pied léger, il se rendit chez elle. Madame Noiret, ainsi se nommait la nourrisseuse, était au champ lorsqu'il se présenta chez elle où piaillait une douzaine de marmots sous la surveillance d'une fillette de 14 ou 15 ans. Il fut obligé d'attendre 1 heure le retour de la bonne femme. Enfin, celle-ci arriva et regarda le visiteur avec l'instinctive défiance de la paysanne pour tout ce qu'elle ne connaît pas. « Quoi que c'est-il que vous me voulez ?» lui demanda-t-elle. « J'aurais à vous parler, » répondit Ovid. « Si c'est pour me proposer un marmot en garde, c'est point la peine de vous arrêter. J'en ai assez comme ça. » Il ne s'agit pas de vous proposer un marmot, mais de vous demander quelques renseignements. C'est que c'est l'heure de traire mes vaches, et j'ai pas le temps de causer. Par le début de ce dialogue, nos lecteurs voient que la mère Noiret, femme de 40 ans environ, n'était pas précisément d'un agréable abord. Ovid, voulant amadouer son interlocutrice, répliqua. Je vous indemniserai du temps perdu.
Ça me traira pas mes vaches, votre indemnité. Et il faut les traire. Qui vous empêche de les traire et de me répondre en même temps ?
Dame, si vous voulez venir avec moi à l'étable.
Mais très bien. Puisque c'est comme ça, suivez-moi.
La mère Noiret prit un seau de fer blanc, un vase plein d'eau, un petit banc de bois, se dirigea vers l'étable en traversant une cour où les pieds enfoncés dans le fumier jusqu'à la cheville, s'assit sur le petit banc près d'une belle vache laitière aux mamelles gonflées et commença son travail. Thank you.